Donc alors on commence. Alors le sujet, c'est le qui a marqué dans le passouk, Vayeav Yitzhak était Esav Kitsaïd Befim. Yitzhak, il aimait Esav parce qu'il chassait dans sa bouche. Parce que, pas chasser, enfin, un verbe. C'est plus présent parce que la chasse dans sa bouche. Alors, il y a deux pshatim dans Rashi, vous voyez, Rashi ici. Premier pshat, c'est quelle bouche? La bouche de qui? Alors, c'est ou la bouche de Yitzhak ou la bouche de Esav. Premier pshat, c'est qu'on parle de la bouche de Yitzhak. C'est-à-dire, comme il mettait la chasse, c'est-à-dire la nourriture dans la bouche de Esav, de Yitzhak, alors, ça l'a permis de tromper, son. Le deuxième pshat de Rashi, c'est le Midrash, c'est Befiv chez Esav, dans la bouche de Esav. Chez Ayatsa d'Oto Merago Bidvarav, qui le chassait, il l'enfermait dans le sens comme s'il l'emprisonnait, dans un sens qui voulait essayer de lui montrer une image de lui qui était fausse, ou Merameo Bidvarav, il le trompait par ses paroles. Donc, on voit bien, hein, que, et clairement, c'est marqué dans le Midrash que Yitzhak s'est trompé quelque part. C'est évident. Celui qui veut dire le contraire, il va avoir du mal avec ce qui a marqué dans le Midrash que Rashi ramène. Je crois qu'il a fait une erreur quelque part. Mais c'est pas possible qu'il a rien vu. C'est-à-dire qu'il s'est trompé quelque part. C'était ou le quelque part où il s'est trompé. Alors nous, ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, c'est ce que le Harizal propose. Le Harizal propose, il dit quelque chose. Et ça va débuter avec ça. Le Harizal, il dit que Yitzhak, il a senti dans la bouche de Esav la Torah de Rabbi Akiva. Esav Befiv, qui tsaïd Befiv dans sa bouche, ça fait référence à la Torah chez Béalpé. Le P de la bouche de Esav, c'est la Torah chez Béalpé. Quel rapport avec Rabbi Akiva? Alors c'est très simple. Regardez, la Gemara dans Sanhedrin, elle dit comme ça. Stam Mishnah Rabbi Meir, Stam Tosefta Rabbi Nechemia, Stam Sifra Rabbi Da, Stam Sifri Rabbi Shimon. Et Kulu Alibad Rabbi Akiva. Donc vous avez la Torah, elle est, la Torah orale, pour nous, en tout cas, elle est ordonnée sous forme de Mishnayot. C'est très bien, c'est ce que Rabbi l'a ordonné. Vous avez les Baraitot, qui est à l'extérieur. Baraita, c'est ce qui est à l'extérieur. Donc c'est ce qui n'a pas été enregistré, ce qui n'a pas été compilé par Rabbi. Mais ça a resté des enseignements qui ont été compilés ensuite par Rabbi Chia et Rabbi Chaya. C'est ce qu'on appelle la Tosefta. Alors, le Sifra, c'est Torah de Kohanim, c'est le Midrash halachique sur Sefer Vayikra. Et le Sifri, c'est le Midrash halachique, c'est-à-dire le Midrash Agada et le Midrash Halacha. Midrash Agada, c'est le Midrash Rabba, c'est le Midrash Tanhuma, Pirkei de Rabbi Eliezer. C'est des enseignements de toutes sortes qui ne sont pas de nature halachique. Et puis, vous avez des Midrashim qui sont de nature halachique, qui sont sur le passage, qui ne sont pas dans la langue. C'est le Sifra et le Sifri. Sifra, c'est sur le Vayikra, et Sifri, le Midrash. Ça, donc, en général, une Mishnah, quand on ne sait pas c'est qui, c'est Rabbi Meir. Une Braïta, une Tosefta, c'est Rabbi Yechémi. Un Sifra, c'est Rabbi Yehuda, et un Sifri, c'est Rabbi Shimon. Et tous, Rabbi Akiva, tous, c'est les élèves de Rabbi Akiva. Vous savez, après les 24 000 élèves qui sont morts, il y en est resté 5. Il manque ici un, c'est pour Rabbi Lazar. Ouais, a priori, c'est Rabbi Lazar, même Chanois. Tout ça, c'est Rabbi Akiva. Toute la Torah orale qu'on a nous aujourd'hui, elle découle de Rabbi Akiva. Ça, c'est quelque chose de clair dans les Chazal, de manière générale. C'est que toute la façon dont la Torah nous est passée à travers les générations, eh ben, on connaît la transmission, il y a les Shammai, il y a Rabbi Yochanan ben Zakkai, et après, ça passe pas par les rabbinim de Rabbi Akiva, Rabbi Eliezer, Rabbi Yehoshua, Rabbi Tarfon un petit peu, et ensuite ça passe tout par Rabbi Akiva, et ensuite tout passe par Rabbi Akiva. C'est-à-dire que la Torah chez Béalpé qu'on a nous aujourd'hui, on pourrait dire c'est un peu la Torah de Rabbi Akiva. Enfin, c'est la Torah de Rabbi Akiva, c'est-à-dire que c'est la façon dont il a transmis la Torah qui est restée jusqu'à aujourd'hui. C'est ça qu'on étudie tous les jours. Donc ça veut dire que c'est quoi Béfiv dans la bouche de Essa? C'est la Torah chez Béalpé. Et c'est quoi la Torah chez Béalpé? C'est ce que Rabbi Akiva, c'est Rabbi Akiva. Et pourquoi Rabbi Akiva Dafka? Parce que Rabbi Akiva, on sait que, en fait, son père, c'est un converti. Rabbi Akiva Ben Girim. Akiva Ben Girim. Marqué ici, je vous ai ramené un des textes. Dans la Gemara d'Ombrachot, 20, Travzain Nukmele Rabbi Akiva. Donc, c'est la fameuse histoire où Rabban Gamliel a été déchu de son poste de Nassi parce qu'il était trop dur envers Rabbi Yehoshua, et il cherchait un remplaçant Rabban Gamliel. Alors, ils ont proposé jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à Rabbi Lazar Ben Azaria. Et à un moment, ils ont dit Rabbi Akiva. Pourquoi non? Dilma Anishli, parce que peut-être il va être puni, ça veut dire il va être puni par Rahman Gabriel, il va être Macpid et ça va faire lui faire des problèmes. Des lettres les scouts à vote parce qu'il n'a pas le mérite de ses anciens. Il fallait quelqu'un qui, non seulement lui, maintenant, mais quelqu'un qui a un grand mérite par ses anciens. Et frère Rabbi Akiva, il n'avait pas de mérite de ses anciens. Alors, je vous ai ramené le pirouge de Rav Nissim Gaon. Nouké Rabbi Akiva, lettres les scouts à vote. Ita be Sanhedrin, dans la Masrei Sanhedrin, c'est marqué Pepere Kol Israël Nishlem Pelek. Ibn Banaf shel Sisra, Lamdoum Torah Bioshalayim, il descendait de Sisra, ou Maninou de Rabbi Akiva. Donc Rabbi Akiva, c'est un descendant de Sisra, donc il descend de Edom, il descend de ça. C'est ça que l'Arizal, il dit, en tout cas, pas dans l'explication, la compréhension de ce que dit l'Arizal, mais dans les faits énoncés par l'Arizal, c'est que la Torah, il a senti dans la bouche de Esav, la Torah de Rabbi Akiva, qui est un descendant. C'est-à-dire que Esav portait en lui le Shoresh Neshama de Rabbi Akiva. Pour nous, ce que ça veut dire, ça veut dire que le Kohar de Rabbi Akiva qu'il a dans la Torah chez Béalpé, la force de Rabbi Akiva, tout ce qu'il a amené dans la Torah chez Béalpé, ça existe chez Esav, ça existait chez Esav, et c'est pour ça qu'il s'est attaché à Yitzhak. C'est pour ça qu'il aimait tellement Esav. On va essayer de comprendre. Bien, alors on va voir. Est-ce qu'il a exprimé Esav ou pas? Et où il s'est trompé Yitzhak, et où il a vu juste et où il s'est trompé? Avec humilité, parce que quand on parle d'une erreur, par exemple, de Yitzhak, on parle d'Yitzhak. D'accord. Alors, pour revenir, pour poser les choses, ce qui est très étonnant dans cette histoire-là, c'est comment on affilie Rabbi Akiva à Esav. Rabbi Akiva, d'abord, c'est un enfant converti. Une conversion, ça coupe le lien généalogique. C'est guerre chez une galère, c'est katan chez la damer. Le converti, c'est comme un nouveau. Ben Yosef, on appelle des fois Akiva Ben Guirin. Yosef, c'est son père, c'est le nom de son père. Mais a priori, ou son père, ou son grand-père était converti. Et c'est longtemps après, vous avez Rabbi Essa et Rabbi Akiva, c'est des milliers d'années après. Comment Yitzhak, il a perçu, bon, Yitzhak était spécial, mais comment finalement on lit Essa et Rabbi Akiva? Comme on a dit, le Harizal, il dit que c'est quoi qu'il aimait chez Essa, qu'il Tsaïd Béfi chassait avec la bouche de Essa. D'après cette explication-là, la bouche de Esav, c'est la bouche, c'est le P, c'est la Torah chez Béalpé qui portait en lui la Torah chez Béalpé de Rabbi Akiva qui descendait de lui. On va essayer d'expliquer, comprendre ce que ça veut dire et à travers ça, développer des notions qui sont assez extraordinaires. Alors, en réalité, il y a, si vous voulez, si on pose les choses de manière, on va dire, un peu fondamentale, sans rentrer dans les personnalités de chacun, Yaakov, c'est le bien, Esav, c'est le mal. C'est ça qui apparaît. Yaakov, c'est l'enfant qui naît avec tous les problèmes. Déjà dans le ventre, Esav, c'est l'enfant avec les problèmes. Déjà dans le ventre de sa mère, il était attiré par le mal. Et Yaakov, c'est Ishtam Yoshev Olim. Voilà, c'est l'enfant sans histoire qui est pur de qui est pur. Et regardez ce que le Maharal explique sur ce Rashi-là que tout le monde connaît. Esav mefarkes la tzed. Esav, il s'agitait pour sortir quand on passait devant une maison de la Vodazara. Alors il dit le Maharal, Vim Thomas, je lis après. Les Pirouzés, Shaya Esav, Mefarkeslet. D'après cette explication, que Esav, il s'agitait pour sortir. Vealo et Yetserara, Be'Adam et la Méhéchéonade, mais Yetserara, il arrive que à la naissance de l'homme. Shenehemar, la Pétah, Chatadrovet, à l'entrée de la naissance dans ce monde, la faute, elle est accomplie. Ulkaman, Pirej, Rashi. Rashi, il a dit, Minamerahi, même Nifradim. Les entrailles se séparent. Zé les richos, celui-là dans sa richoute, mais Zé les toumo, et lui dans son entièreté, dans sa chlémou. Vélo, Beodan, Bébéten. Mashmak, c'est quand ils sortent qu'un, il devient un rachat et l'autre, il devient un tzaddik. Mais quand ils sont dans le ventre, il n'y a pas rachat de tzaddik, donc ils sont rachat de. Alors, le Maharal, il explique, vous connaissez peut-être ce chat. Vénire, Daïnou, Dafka, Shenra, Adam, Chote, Beyetzer, Ara, Liot, Mit, Ave, Lartok, Onem, Shinela. Quand on dit qu'il n'y a pas de Yetzer Hara, il n'est pas rachat dans le ventre. C'est-à-dire qu'un homme, il ne faute pas à cause du Yetzer Hara d'avoir des ta'avot de fauter avant de naître. Si il y a Yetzer Hara, bah, elle a Harareda. Parce que Yetzer Hara vient seulement après la naissance. Ve'atam yadoua les maskil. Et la raison, elle est connue pour celui qui comprend pourquoi c'est comme ça. Avalkan, mais ici, Maché'asa et Sav, l'obivilitro. Ce n'est pas à cause du Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, c'est une attirance à fauter. d'une personne. Mais lui, il n'a pas de Yetzirah, donc c'est pas ça. Alors c'est quoi? C'est que, et là, il finit, Shayar c'est la tête, la chouve, elle minot, elle tibre. Parce que Ezav, il était attiré par sa nature, pas par son Yetzirah. Chez Kol Davar, Vedavar, Mitorer, El Tivo. Chaque chose, il est attiré par ce qu'il est. Chaque chose, il s'éveille à ce qu'il est, à sa nature. Car, chez Ba Yaakov, les Batemin Rachat, il y a Mitorer, El Roach HaKodesh. Yaakov, il passe à côté de Batemin, il s'est éveillé au Roach HaKodesh. Mitorer, la tête Betivo, il voulait sortir selon sa nature. Rechen Esav, chez Aïta Baal, il finit Bate Avodazara, Velo Mishum Mitzvara. C'est pas qu'on sera, c'est qu'on sa nature. Le Maral, qui dit en deux mots, c'est que Esav, il n'a pas de Yetzera, mais il a une nature qui est rare. Et ça, c'est celui qui est mauvais depuis le ventre. Hachem, il a créé comme ça, avec le mal en lui. Pas un Yetzirah, que lui, il a un libre arbitre, est-ce que je vais fauter, je vais pas fauter. C'est qu'il porte en lui tout le mal de ce monde. C'est terrible pour un enfant de l'école. Et il est attiré naturellement vers le mal. Enfin, il a une Bechira de tenir, d'affronter cette nature, et de pas fauter. C'était ça, ça, au-delà, ça. Bon. Mais évidemment, et ça, il est avec une nature profondément mauvaise, où déjà dans le ventre de sa mère, il est attiré par la Avodah Zarah. Et Yaakov, il est avec une nature profondément bonne. Il est attiré vers le Roi HaKodesh et le Beit HaMidrash. Non seulement c'est un grand cri, c'est-à-dire qu'il y a une nature qui sont mauvaises et bonnes, ça veut dire qu'ici, on a vraiment, c'est pas une injustice, mais on a une scission totale entre le mal et le bien. On est vraiment dans du manichéisme. Et ça, c'est le mal, et Yaakov, c'est le bien. Mais ça, c'est la réalité, comment le Maharal, il décrit les choses. Non. Non. Le combat de Jacob, c'est de rester ce qu'il est, et le combat de Esav, c'est de pas être attiré par ce qu'il est. C'est beaucoup plus difficile. Esav, il avait un corps extraordinaire. Esav, ça aurait pu être lui, en réalité. Alors, c'est ça qu'on va essayer d'expliquer. Qu'est-ce qui se passe avec Esav? Esav, c'est le personnage le plus intrigant, pour pas dire intéressant, de cette paracha, en réalité. Ouais. Parce que c'est lui qui a des histoires. Alors, Esav, en vérité, il pouvait vadaï surmonter sa nature. Ça lui a donné le pouvoir, sinon c'est ça vient du mal et il peut rien faire d'autre que du mal. Sûr que non. Donc lui, il est né mauvais, il est attiré par tout ce qui est mauvais dans ce monde, mais il peut faire une avoda de se transformer et de se combattre à lui-même. C'est comme si Yaakov, il doit combattre l'ange de Esav, mais Esav, il doit combattre son propre ange, c'est plus difficile. Et il a réussi. Le grand chidouche de Ramosh Shapira, un des grands chidouchim de Ramosh Shapira dans sa chambre, c'est que Esav, il a réussi et qu'il s'est transformé et qu'il est devenu un tzaddik à la base. Et là, c'est une nouvelle lecture. Regardez, pourquoi il dit ça? Ah, c'est une Gemara dans Kiddushin. Kiddushin 18a, je l'ai mis ici. Amar Rabbi Yochanan ben Nouri. Pardon, Amar Yochanan. Nochi Yoresh et Tavis Var Torah. Donc, c'est une fameuse marloquette. Est-ce que l'héritage existe d'après la Torah chez les Goyim? L'héritage, on parle d'argent. Alors, Rabbi Yochanan, il pense que oui, l'héritage, il existe. Dirtiv, qui Yerusha, les Esav, Natatse, Tarsir. Parce que j'ai donné en héritage la montagne de Seir. Ça existe, l'héritage. Israël, Meshumat, peut-être qu'un Israël qui a tourné, qui est Meshumat, un apostat, c'est différent. Alors, on ne comprend rien, c'est normal. Esav, tu l'appelles Israël. Mais Israël, c'est quand que c'est arrivé Israël? C'est quand Yaakov, il a combattu l'ange de Esav, qu'il a gagné. Imanashim, tu as battu un ange et tu as gagné. C'est ça, Israël. Sarut, il a battu le sar de Esav. Et Esav, il a battu qui pour s'appeler Israël? Israël, c'est un nom qui est spécifiquement réservé à Yaakov. Comment tu peux appeler Israël Meshumad? Alors, on peut toujours dire que c'est l'Av Dafka, c'est une façon de parler. Mais les mots ont du sens, normalement. On ne dit pas des mots au hasard. Donc, lui, ce qu'il dira à Moshe, c'est qu'en vérité, tu es obligé de dire que Esav, il a gagné son Etzara. Avant qu'ils sortent du bas du Beit HaMidrash, Vaïgdelou Hanéarim, ils ont grandi. On ne les reconnaissait pas. C'est vrai qu'on ne les reconnaissait pas. Ça ne veut pas juste dire que lui, il trichait, lui, il faisait semblant d'être un tzaddik et lui, c'était vraiment un tzaddik. D'après ce pchat-là, c'est-à-dire que Esav, il était vraiment tzaddik autant qu'il y a, quoi. Il avait battu son Yetzer Hara, il avait gagné. Et après, il a tourné. Mais au début, il a réussi et il est devenu Israël. Comme si on disait que Yaakov, il a mérité le nom d'Israël parce qu'il a battu l'ange de Esav, et bien lui, il a battu son propre ange. Il a battu sa propre nature et il est devenu un Israël. Lui aussi, il a Sarita et Melokim. Lui aussi, il a battu Elohim. Donc, ils étaient identiques. Avec des lois Néharim, indifférenciés. On en parle de manière indifférenciée. Avec des lois Néharim, ils ont grandi, il est jeune. On dit pas, lui, il était comme ça, lui, il était comme ça. Donc, ils étaient les mêmes. Ça veut dire que finalement, les deux, ils se complétaient bien. Mais ensuite, après qu'il ait quitté, alors, Essav, il est devenu le symbole de tout ce qui est mauvais. C'est-à-dire, en fait, il est revenu à sa nature. On fait pas du moussard ici, mais on imagine bien combien c'est dur pour Essav de tenir contre sa nature profonde qu'il a en lui depuis qu'il est né. Non. Regardez, maintenant il y a une barre, donc ça rime. Donc toujours notre fil conducteur, c'est toujours comprendre qu'est-ce qu'il a trouvé de bon, qu'est-ce qu'il a tellement aimé chez les sables. Il sera pourquoi il aimait spécialement les sables. D'accord, il était sadique au début. Okay, mais... Et après, il n'a pas vu qu'il a tourné, d'accord. Parce que les sables le trompaient. Il ne faut pas oublier que les sables, c'est pas n'importe qui aussi, les sables. C'est une traque, ça, c'est ça. Mais finalement, Jacob aussi, il était sadique. Pourquoi il aimait spécialement les sables, Jacob? Qu'est-ce qu'il a vu chez ça? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui lui ressemble chez ça. Il y a quelque chose où il s'identifie plus à Esav qu'à Yaakov. Ouais. Vous allez me dire, les parents, ils sont pas censés s'identifier, mais on n'est pas dans un cours de pédagogie. Nous, on est dans, qu'est-ce qui a marqué? Il a marqué, Yitzhak, il aimait Esav, Rivka, elle aimait Yaakov. C'est ça qui a marqué. Yitzhak, il aimait Esav. Donc, ça veut dire quoi? C'est qu'il voyait chez lui quelque chose de spécial qui faisait qu'il avait un attachement particulier à Esav. Alors, la Gemara, comme ça, une Gemara extraordinaire, ça fait vraiment révolutionnaire, cette Gemara. Et c'est là le point de départ de toute la compréhension de ce sujet-là. Rav Yosef, Ben Yoma de Hatzarta, le jour de la Tseret, il disait, donc c'était au moment de Shavuot, Amar Avdeli de la Tilta. Faites-moi une génisse qui est Tilta, c'est-à-dire qui est spécialement bonne. Amar, pourquoi? Iloa Yoma de Kagarim, s'il n'y avait pas ce jour de Shavuot, qui ont dans le Matan Torah qui entraîne ça, Kama Yosef Ikabeshuta. Combien de Yosef il y a dans la rue? Est-ce que je suis devenu Rav Yosef, que je suis quelqu'un de tellement extraordinaire? Alors, c'est parce qu'il y a ce jour-là de Matan Torah, c'est ça qui m'a donné toute ma Hashimut. Alors aujourd'hui, je dois me réjouir. C'est la première chose. Après, là, surtout la deuxième. Rav Sheshet, Kol Tlatinyomin Maderle Talmudé. Rav Sheshet, tous les 30 jours, il révisait tout son Talmud, toute son étude. Je ne sais pas s'il aurait du temps pour étudier, mais en tout cas, il fallait bien qu'il révise quelque chose. Donc, il révisait chaque 30 jours, il révisait son étude. Mais Talé, Vekaye, et quand, à la fin de chaque 30 jours, il finissait de réviser tout son Talmud, il se mettait à sa porte, il s'appuyait sur le pas de la porte, je ne sais pas pourquoi il faisait ça ne s'est pas expliqué. Va'amar, il disait, Chadaï Nafshai, réjouis-toi moi-même. Chadaï Nafshai, Simchi Nafshi, réjouis-toi, mon âme, réjouis-toi, c'est-à-dire que je me réjouisse moi-même. Il s'auto-réjouit de lui-même. Pourquoi? L'arkaraï, l'artenaï, Rashi, en bas, bishvilcha, pour toi, ou tsorkecha, pour ton besoin, ça veut dire que ton besoin, il se parle à lui-même. Shaniti, j'ai étudié, mais kariti, j'ai lu la Torah. Que je me réjouisse, parce que j'ai étudié la Torah, c'est pour moi que j'ai étudié la Torah. Alors, réjouis-toi, parce que voilà, la Torah, tu l'as étudiée pour toi, tu es content. Bizarre comme façon de parler. La Gemara dit vraiment, Amar Rabbi Elazar, il m'a les Torah, sans la Torah, l'onim kaimu shamim va arrêter, la Torah n'aurait pas existé. Chené Mar, il m'obérit de Shimon Valaila, ou Kod, shamim va arrêter, samedi, si ce n'est mon alliance du jour et de la nuit, les lois du ciel et de la terre, je n'aurais pas fait. Rashi, Eni, Vechi Anana, Betalmud Torah, il allait l'homme dit Levadam, l'homme dit à Levadam, est-ce que le profit du Talmud Torah, c'est que pour toi? Et tu dis, réjouis-toi, parce que tu as étudié pour toi-même. Et tu t'as kiffé, alors, tu as eu tellement grand plaisir d'étudier, ça t'a tellement apporté à toi-même. Alors, faut que je me réjouisse de ça. Mais c'est pour ça qu'on étudie, c'est que pour ça. Arrête ça, sans ça, le monde n'aurait pas existé. Donc, c'est très égoïste comme posture. Qu'est-ce que répond la Gemara? Mais Ikara, à la base, qui avait dit niche quand quelqu'un y fait, Adata il le fait pour lui-même. Mais lui, c'est Archéchette. Il n'est pas à la base, lui. Non, mais même Rav Sheshet, à la base, s'il fait, il fait pour lui. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Rav Sheshet, lui, c'était un mora, il tenait le monde par son étude. Oui, mais c'est pour lui-même qu'il est à la base. À la base. Qu'est-ce que ça veut dire? La réponse, la Gemara, ce qu'elle nous apprend, c'est que toute chose qu'on fait, l'éveil de chaque chose que quelqu'un va entreprendre dans sa vie, c'est son propre intérêt. À la base, c'est forcément dans son propre intérêt, ça ne peut pas être autrement. À la base, Meïkara, c'est-à-dire l'éveil aux choses. La volonté première d'entreprendre une chose, elle est que dans mon propre intérêt. Si je ne la fais pas pour moi, je la fais. Et non, on veut dire, Rav Moshe, ce qui est chez les Mechadesh ici, c'est que ça, c'est la définition même du Yetzirah. Et pourquoi le Yetzirah, il vient à la naissance, alors que le Yetzirah, il vient à la bar mitzvah, comme ça on a l'habitude de dire. Le Yetzirah, c'est mes fourrages qui viennent à la naissance, on l'a vu dans le Maharal. Pourquoi Yetzer Hara vient avant Yetzer Hatov? C'est étonnant. Mais ce n'est pas qu'il vient seulement avant, c'est qu'il vient à la naissance de la personne. C'est-à-dire quand il naît, sort dans ce monde, il est accompagné par l'Etzera. C'est-à-dire que l'Etzera, il est constitutif de l'être. Ça veut dire que tu ne peux pas vivre sans l'Etzera. Dès que tu l'es, tu as l'Etzera avec toi. L'Etzera, toi, vient plus tard. L'Etzera, c'est quelque chose qui vient après. C'est lié à la conscience, au développement, à la maturité. À partir d'un certain âge, quelqu'un il peut avoir un Yetzera Tov. Mais quand il naît, il n'est qu'avec un Yetzera. Qu'est-ce que ça veut dire dans ce que, qu'est-ce que ça nous signifie à nous dans ce que c'est une personne? Ce n'est pas par hasard que Yetzera vient à la naissance et qu'il accompagne l'homme toute sa vie, alors que Yetzera Tov, il n'est pas indispensable à l'homme puisqu'il vient plus tard. Dans le sens, il n'est pas vital à l'homme puisqu'il peut venir. On peut vivre sans Yetzera Tov, on peut pas vivre sans Yetzera. Ça veut dire que le Yetzera, en vérité, c'est l'éveil premier des choses. Le Yetzera, c'est-à-dire que je suis tourné vers moi-même. Je fais les choses dans mon intérêt à moi. C'est-à-dire, un bébé, quand il naît, il doit subvenir à ses besoins propres. Qu'est-ce qui le pousse à manger, à marcher, à survivre? C'est le Yetzera. Ça veut dire, qu'est-ce qui le pousse à exister, à finalement vivre? Parce qu'il a envie de vivre, parce qu'il a envie d'exister. Donc, c'est-à-dire que moi, je veux que mon existence, elle existe. Je veux survivre. Alors, j'ai besoin, je dois être poussé à ça par quelque chose. Parce qu'il me pousse à ça, c'est le Yetzera. Etzera, c'est ce qui me fait exister mes pulsions premières, mon envie de survivre, mon envie de me protéger, mon envie d'entreprendre des choses. Tout mouvement que je vais faire pour un intérêt, personne ne fait rien sans intérêt, c'est Etzera qui me pousse à le faire. Alors Etzera, dans cette idée-là, c'est pas du tout le mauvais ange de la conscience qui me dit de faire de la verrade, c'est vrai aussi. Mais à la base, dans son yesod, dans sa racine, Etzera, c'est pas ça. Ça, c'est ce qui va venir après, on va expliquer comment ça marche. Quand quelqu'un il va grandir, alors le problème, c'est qu'il va, s'il continue à être tourné vers lui-même, alors il va profiter que de ce monde vers lui-même, donc forcément, il va être vers la ta'ava. C'est-à-dire qu'à la base, le Zera, ce n'est pas les ta'avot. À la base, le Zera, c'est l'autocentrisme. C'est-à-dire que je veux exister et je suis centré que vers moi-même et j'existe que dans mon propre intérêt. Ça, c'est pour tout le monde, même pour Afshéchel, et même pour le Limoud Torah, et même pour chaque chose. Maintenant, on va essayer de développer cette notion-là pour ensuite revenir à Yitzhak et Esav. Donc, Avraham Avinu, vous savez, tout le monde sait, Avraham Avinu était chesed. Tout le monde sait que Yitzhak, il est din. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Nous, on veut développer ici, c'est quoi la minata din, pour ensuite essayer de comprendre c'est quoi la notion d'Etzera. Parce que la notion, le din, il trouve son, le Etzera, il trouve sa racine dans la minata din. Ça veut dire quoi? Zin, ça veut dire que personne ne peut recevoir plus que ce qui lui revient. C'est la contraction. Le chesed, c'est l'expansion. Ça veut dire que moi, je m'élargis envers les autres. J'existe aussi avec les autres. On forme tous un tout, c'est l'expansion. J'existe chez les autres. Ça m'a fait penser, ce qu'il avait dit Rav Eman, il y a 15 ans de ça, il y avait Rabbi Sarameir, qui était du Ftar, le Rosh Yeshiva de Negev, c'était un grand Tamim Sarameir. Il avait dit, on ressent la grandeur de quelqu'un dans le vide qu'il a chez les gens et quoi qu'ils sont. Plus il laisse de vide chez les gens, et plus il était grand. Ce sera plus il était grand, plus il occupait plus de place chez les autres. T'as des gens qui s'occupent d'une place énorme chez quelqu'un. Des gens qui occupent une petite place. Quelqu'un qui occupe une place chez le monde entier, c'est quelqu'un de très grand. Il y en a beaucoup. Il occupe toute la place, parce que tout existe que par lui. Donc, en vérité, il est gadol par définition. Etzem, il est gadol. Mais quelqu'un de grand c'est chesed. Gadol, gibor, n'est pas. Grand, c'est chesed. C'est-à-dire, grand, c'est l'expansion. Ça veut dire que je m'élargis au monde entier. J'existe et tout. Le din, c'est la contraction, c'est exactement dans l'autre sens. C'est-à-dire que c'est l'individu en tant qu'individu et rien d'autre. J'existe que moi-même et il n'y a que moi ici. Tout le reste, c'est qu'un décor qui me sert à moi. Mais on va essayer de comprendre, c'est quoi? Il trague et il est un tzadik. Ça veut dire que le din aussi, on peut l'utiliser pour arriver à la tzadik. Il y a deux chemins pour y arriver. Mais en tout cas, le din à la base, c'est que moi, j'existe et j'existe en tant qu'individu et je ne m'étends pas vers le reste. Je me contracte, j'existe qu'envers moi-même. Maintenant, écoutez, pour bien expliquer ça, on va revenir sur Parashat Vayera et vous allez avoir ici une interprétation extraordinaire de ce que Sdom ils étaient. Parce qu'on a tout le monde, on ne comprend pas trop Midat Sdom. C'était des pourritures, pas possible ces gens-là. Mais en vérité, les Mepharchim ils expliquent que Sdom, eux en vérité, ce qu'ils faisaient à eux, c'était basé sur une vérité absolue. Seulement c'était une vérité mal prise, mais en vérité, le fond, il y avait une vérité. Alors regardez, il y a un Ramchal, faut absolument voir ce Ramchal. C'est le Ramchal, c'est tout au début du Derech Hashem. Il nous explique le moussag de Naama de Kisufa. Vous connaissez Naama de Kisufa, le pain de la honte. Alors, ça veut dire quoi le pain de la honte? Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il aurait pu nous créer directement dans l'Olam Haba. C'est-à-dire qu'il aurait pu. Akadosh Baruch Hu, il veut quoi? Ramchal, il développe ça très bien. La Atava. Lui, il a créé le monde, son Sa volonté première, sa volonté finale, c'est quoi? C'est d'être métive là que les mots. Ça veut dire de faire profiter, de donner du bien et du plaisir à quelqu'un d'autre que lui. Il veut partager son idée. Et comment il fait ça? Bah, il crée un monde. Et ces gens-là vont profiter de sa lumière. Ça veut dire que la proximité avec quelqu'un, beaucoup, ça amène à un plaisir que nous, on ne connaît pas. C'est le plaisir que l'on a, un plaisir extraordinaire, un tahanoug incroyable. C'est ça, la proximité avec l'homme. Mais nous, on doit passer par. Mais alors, il aurait pu faire comme ça. Il aurait pu dire bah, je crée les gens directement. Mais ce qu'il veut savoir, c'est que je crée un monde où les gens, directement, ils s'appellent le Lamaba. Pourquoi tout le monde passe par le Lamaba? Puisque le Sahar et le Lamaba, avec toi, ton but, c'est d'arriver à donner ce plaisir aux gens. Alors, commence avec ça. Alors, les Khazal, ils disent que le Lamaba dit qu'il va le pendre la route. Il faut travailler parce que si on parle de recevoir quelque chose que tu ne mérites pas, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le Ramchal ici. Il dit comme ça, regardez la définition de la chose, elle est très précise, elle est extraordinaire. Il dit, Veulam Gazra Chochmato, sa Chochma a décrété, c'est Liot Atov Hashalem, que le bienfait y soit entier, Raou Shiye Anenebo Baal Mishi Ikne Atov Bes. Il est apte que celui qui en profite, il acquiert lui-même ce bienfait. Vélo Michit lavé l'eau à top et dermicré. Non pas que ça lui revient par hasard. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui vient de lui-même, mais c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. Vétiré chez Zénicré, ça, type d'amout à top. Et ça, c'est parce que ça ressemble un peu à ce top, la pirouche, qui est né ou il barre chez moi, chalem, béatement. Vélo Michré, parce qu'Akadash Boko, lui, il est chalem, il est parfait. Béetzel, c'est en lui-même, c'est pas un micré. C'est pas quelque chose d'accidentel. Il aurait pu ne pas l'être. Non, il est chalem parce que Akadosh Baruch Hu, c'est un être be'etzem qui est comme ça, qui est parfait, qui est entier. Et la mitzad, Amita Tinyanu Mukharbo. Ah, il y a un problème de. Ça a mal été ordonné. Bon, en tout cas, si vous voulez voir dans le Der Hashem, je vous le dis en français directement. Ce qu'il dit le Ramchal, c'est que Akadosh Baruch Hu, en vérité, comment on va profiter de lui, c'est qu'on va être à proximité de lui. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, c'est quoi la meilleure atava? C'est de donner le top. Je veux donner du bien, je veux faire du bien à quelqu'un, donc je lui donne du bien. Et c'est quoi lui donner du bien? C'est lui donner de lui-même. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est lui le top à la chaîne. C'est lui l'être qui est top par définition. Et donc, plus je vais être proche de lui, et plus je vais recevoir du top. Et comment je vais être proche de lui? En lui ressemblant. Et comment je ressemble à Kadoshman? C'est en recevant un salaire que je n'ai pas travaillé pour avoir ou c'est en travaillant pour recevoir. Pourquoi? Parce que plus je lui ressemble et plus je peux me rapprocher de lui. Et Akash Bokhu, lui, le Tov qu'il a en lui, c'est pas quelque chose qu'on lui a donné, c'est quelque chose qui est chez lui par définition. Et donc, plus moi, je ne l'aurai pas de manière accidentelle, mais je l'aurai acquis de moi-même, plus je lui ressemblerai. Parce que si je l'ai de manière accidentelle, il me donne comme ça sans travail, alors je n'ai jamais acquis ce top. Donc, ce n'est pas quelque chose que j'ai fabriqué en moi-même. C'est quelque chose qui vient de l'extérieur. Donc, ça, c'est plus loin de ce que la cause beaucoup il est. Quand je l'acquiers de moi-même, eh ben, je le ressemble un petit peu plus. Je le ressemble un petit peu plus. Et plus je le ressemblerai, plus il pourra me donner. Et donc, en vérité, ça veut dire que quoi? Kadosh Baruch Hu, ce qu'il veut, c'est que nous, on acquiert le bien. On acquiert de nous-mêmes par un travail, pas qu'il nous donne gratuitement. Alors, qu'est-ce qu'il pensait, cet homme? Zdom, il disait, en vérité, quand tu donnes, tu fais du précède à quelqu'un, tu fais un crime contre l'humanité. Parce qu'en fait, tu l'empêches de se réaliser lui-même. Ça veut dire, si tu lui donnes de l'extérieur, alors tu lui enlèves un peu de schlemout, parce que tout ce qu'il veut toi avoir, c'est celui qui doit l'acquérir. C'est ça leur malheur. Donc, quand tu fais du précède, celui qui le fait, celui qui reçoit, c'est un crime contre l'humanité, parce qu'il empêche à l'homme d'être autosuffisant. Parce que plus l'homme il est autosuffisant, plus ce qu'il a, ça vient de lui, et plus il est chalem. Donc en réalité, tu n'as pas le droit de donner quelque chose à quelqu'un. Tu le tues en faisant ça, tu le détruis. Il ne faut pas donner. Le recette, c'est anti le projet de lui. Ça contre le projet de lui. Ah, c'est fondé sur une vérité, mais c'est absolument. Et dans Vaïra, pour ajouter un peu de sel et de poivre, les malachim, ils sont venus ensemble, les trois. Hein. Dans la fameuse question que tout le monde connaît, mais pourquoi ils sont venus ensemble? Quel rapport qu'il y a entre les choses? Parce qu'ils ne sont pas venus en même temps, ils sont venus ensemble. C'est-à-dire quoi quand trois personnes viennent ensemble annoncer trois nouvelles qui n'ont rien à voir, mais après ils viennent ensemble. Ils auraient pu autant ne pas venir ensemble qu'en venir ensemble. S'ils viennent ensemble, ce n'est pas par hasard. S'ils viennent ensemble, c'est qu'il y a un lien direct entre les trois chiffres. Ici, on va parler du lien qui est entre la chiroute de la naissance de Yitzhak, l'annonce de la naissance de Yitzhak et la destruction de Sodome. Pas la troisième, la guérison d'Abraham, le sauvetage de l'autre. Ça, c'est un autre chiour. C'est un chiour à part entière qui dure 1 heure et demie dans le marché. Mais là, ces deux choses-là, c'est un lien. C'est-à-dire, l'annonce de la naissance de Yitzhak et la destruction de Sodome, c'est deux choses qui sont liées. C'est-à-dire, en fait, l'annonce de la naissance de Yitzhak, c'est ça qui provoque la destruction de Sodome. Pourquoi? Parce que Sodome, on a dit, c'est quoi? C'est le dîn à l'extrême. C'est-à-dire que le dîn, personne n'a droit à rien. Et Yitzhak, c'est le dîn aussi. Seulement, c'est le dîn qui va contre le dîn de Sodome. C'est-à-dire, en fait, c'est le vrai dîn, le dîn qui est écrit de la bonne manière, pas de la mauvaise manière. Donc, en fait, quand Yitzhak, il arrive au monde, eh ben, c'est la destruction de Sodome par définition. Parce que ça montre à quel point leur dîn à eux, il est tordu. On parle pas de ça montre qu'ils ont vu. Ça veut dire que ces deux choses-là coïncident. Le dîn de Sodome, qui est de dire que celui qui reçoit quelque chose qu'il n'a pas le droit d'avoir, eh ben, tu le détruis parce que tu lui enlèves quelque chose qu'il aurait pu acquérir par lui-même. Et ben, ça, Yitzhak, quand il arrive, il va montrer à tout le monde que c'est pas ça le dîn. C'est une situation complètement erronée. Donc, la naissance de Yitzhak, c'est la destruction de Sodome. La chita de Sodome. Abraham, il récède, il est complètement opposé au début, il veut sauver Sodome. Mais Yitzhak, lui aussi, il est dans ce malach-là. Mais d'une autre manière. Ça veut dire, pourquoi c'est vrai, pourquoi c'est faux, finalement? Parce qu'en réalité, là où ils se sont trompés, Sodome, c'est qu'eux, ils ont dit, ce monde-là, comme il a dit le Ramchal, limite, ils avaient peut-être le Ramchal, qui nous, c'est qu'il faut acquérir le ce qu'on est, il faut le devenir par nous-mêmes, il ne faut pas le par de la montre, il ne faut pas qu'on le reçoive d'accord de chemin. Il veut qu'on travaille, il veut qu'on acquiert quelque chose. Donc, si quelqu'un a quelque chose, ça ne vient pas de moi-même. Ah, donc il m'a enlevé quelque chose, il m'a bousillé. Donc, il ne faut surtout pas faire ça. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que, à cause de mon coup, lui, à la base, qu'est-ce qu'il a créé? Un monde de chesed, un monde où il donne. C'est ça, tout ce qu'il a créé, c'est pour faire du bien aux autres, c'est pour le chesed. Pourquoi il a mis du djinn dedans? Ça veut dire, pourquoi il a mis ce côté qu'il faut que je sois autosuffisant, il faut que j'acquière les choses par moi-même? C'est parce que, si, le, pour que le chesed, il soit mieux. Pas parce qu'il veut, à la même archaval, il voudrait être à la même natadine. Il a voulu au début créer le monde avec le djinn, et ensuite il a rajouté à lui la. Ça ne veut pas dire qu'à la base, le monde, il est digne. Ça veut dire que c'est évidemment que Olam Chesed Ibané, que le monde, c'est qu'un élan de Chesed, une volonté purement de donner aux autres, de faire exister quelqu'un. Il n'y a pas plus grand Chesed que de faire exister quelqu'un et de leur donner quelque chose. De faire exister la création même, c'est qu'un Chesed. Il n'y avait rien, maintenant, il y a quelque chose. Ce n'est pas une contraction, c'est une expansion. C'est-à-dire que je fais exister en dehors de moi autre chose. Seulement, il faut que ce soit régi par le digne. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que pour que le chesed soit entier et pas manquant, il faut qu'il y ait un dîme. Dans le sens, il faut que ce soit encadré par une loi qui dit que quelqu'un il doit acquérir les choses par lui-même. C'est-à-dire que chaque individu doit se voir comme le seul monde qui vit. Et moi, je dois acquérir les choses par moi-même. Et donc, je dois exister individuellement et je dois être encadré par ça. Mais le dîme, en vérité, c'est qu'un moyen pour le chesed de mieux s'exprimer, c'est pas un but en soi. Quand tu prends ce dîme, eux, ils ont gardé juste le régi par le dîme. Le monde, il doit être régi par le dîme. Ah, tu fais du chesed, tu détruis le monde. À cause de vous, si tu as fini à ta famille, mais n'oubliez pas que le dîme, c'est qu'un moyen. Quand le dîme, il arrive à détruire le monde, pas à le construire, si le dîme, c'est un but, des matins, mais si le dîme, c'est qu'un moyen d'arriver à un meilleur chesed, alors au contraire, quelqu'un qui vit que dans le dîme et pas dans le chesed, arrive à l'encontre de la création, il va pas avec la création. C'est ça l'erreur de Sodome. Eux, ils ont pris le dîme jusqu'au bout, ils ont poussé à l'extrémisme et au fanatisme de ce côté de dîme. Alors que Yitzhak, lui, au contraire, Yitzhak, quand il naît, ça veut dire que c'est le dynamiti, c'est le vrai dîme. Pourquoi? Alors regardez, c'est très simple. Ve'eleh toldot Yitzhak ben Avraham, Avraham, ou Yitzhak Yitzhak. Voici la descendance de Yitzhak, le fils d'Avraham. C'est Avraham qui a engendré Yitzhak. Yitzhak, il vient d'où? Le dîme, il vient de Avraham. Comment quelqu'un de chesed, il peut avoir le dîme? On va me dire, bon, ça va, c'est les enfants. Mais Abraham, il est cool au chesed, et Yitzhak, il est cool au dîn. Comment là, le chesed, il engendre le dîn? Ben, c'est très simple. Parce qu'en réalité, le dîn, il vient quoi? Il vient du chesed. Parce que il voulait faire un monde où il donne. Et pour que le monde, il existe, il faut qu'il soit encadré par une loi qui dit que toi, tu dois acquérir par toi-même. C'est le dîn. Le dîn, ça veut dire, j'existe et je m'autosuffis. Et tout ce que j'acquiers, plus je l'acquiers par moi-même, et plus je serai parfait, et plus je ressemblerai à Hachem, et plus le chesed, il pourra s'exprimer. Donc en fait, c'est le chesed qui a engendré le dîn. Mais il ne faut pas oublier, c'est Abraham, il est de Yitzhak. Yitzhak, il n'est jamais tout seul. Yitzhak, il ne peut pas exister par lui. Yitzhak, il ne peut venir que d'Abraham. C'est pour ça qu'on dit Abraham, il est de Yitzhak. Tout ça précède au lignée de Tadim. Pareil pour la Hakeda. Qui c'est qui a fait? Pourquoi on retient que la Hakeda? De toute l'histoire, il est monté sur la montagne, il a mis son sang corban. On retient le moment où il a ligoté Yitzhak. Hakeda, Yitzhak. Ok, de la Neka, de la Mizbar. C'est que Ok, de la Neka, de la Mizbar. Ça, le refroid. Razal, toujours, on parle de Hakeda Isaac. Malgré ça, c'est un détail, en fait. Et il a pris, bon, il a ligoté comme un corban, on a ligoté la patte avant avec la patte arrière, la patte avant avec la patte arrière de l'autre côté, tu ligotes et voilà. C'est ce que ça que tu as retenu, il a coupé du bois aussi, déjà. Bekiat, Etim, Geltrak. Alors, c'est quoi la notion? C'est-à-dire que finalement, qu'est-ce qui reste de la Hakeda Isaac? Une fois qu'il est remonté, il est redescendu, qu'est-ce qui reste? Le ligotage. C'est-à-dire quoi? Abraham, il est venu, il a ligoté le din. C'est le chesed qui ligote le din dans le sens. Que le din, il ne faut pas qu'il s'exprime par lui-même. Le din, il n'est que là pour servir le chesed, dans le sens qu'on a dit avant. Et donc, en vérité, Abraham, qui est chesed, c'est lui qui vient et il dit au din, mais attends, toi, n'oublie pas que tu n'es pas indépendant. Il ne faut pas que tu sortes de tes limites. Parce que toi, tu es là que pour servir le din. Donc, Abraham, qui représente le chesed, eh bien, il ligote le din, il dit, reste à ta place. Surtout, ne t'étends pas plus que ça, parce que sinon, on arrive à se dom. Abraham, c'est lui qui ligote Yitzhak. C'est simple, en fait. Et c'est pour ça que Sodom, il est détruit quand Yitzhak est né. Parce que Abraham, lui, Yitzhak, parce que comme c'est Abraham, au moment où il engendre Yitzhak, ça veut dire que c'est le chesed qui engendre le din, alors Sodom, ils peuvent plus exister. Parce que eux, chez eux, leur din, il n'est pas engendré par un chesed. Eux, chez eux, leur din, c'est un but en soi et pas un moyen d'arriver au jeu. C'est terminé, ils ne peuvent plus exister. C'est pour ça que les deux malachim viennent ensemble. Parce que c'est deux choses qui sont directement liées. C'est un chidouche extraordinaire. Maintenant, ça c'est le début pour comprendre un peu la notion de Yetzer Hara et le Ra Ben-Tsem qui existait chez Esav, le mal de Esav. Pas oublier la Gemara, évidemment, faut pas oublier la Gemara qu'on a dit Rav Shechet. Rav Shechet, il dit réjouis-toi, mon âme, que je me réjouisse. Parce que toute chose qu'un homme y fait, à la base, il le fait pour lui. Parce que la Midat Hadin, en réalité, c'est la source de Yetzer Hara dans le monde. Parce que la Yetzer Hara dans le monde, c'est quoi? C'est-à-dire qu'en vérité, je ne fais que les choses pour moi. Je suis tourné vers moi-même. Parce qu'on a dit, le Tzara, il vient à la naissance. C'est-à-dire que c'est constitutif de l'être. C'est j'existe. Le Tzara, il te dit que j'existe. Ça s'appelle dans les Moussards, l'ego. Ils vont te dire, le Tzara, c'est l'ego. L'ego d'une personne. L'égocentrisme. Et tout ça, c'est vrai. C'est-à-dire que dans le Shoresh Advarim, dans la racine des choses, le Tzara, ça veut dire j'existe. En tant qu'individu, il n'y a que moi qui existe. Et que rien d'autre n'existe. Et tout me revient à moi. Et donc, il s'accapare le monde. Alors, quand il est bébé, c'est normal. Un bébé, il connaît que prendre. Il ne sait pas donner un bébé. C'est-à-dire, il est prolodine, en fait, en bébé. Il est que midatadine. Il n'y a pas de recette chez un bébé. Il ne fait que prendre. Il est auto-centré complètement. Parce qu'il vit que avec les serveurs. Et ça, c'est midatadine. Parce que la midatadine, elle fait quoi? Encore une fois. La midatadine, elle dit que Hachem, il a voulu donner du bien à ses créatures. Il a créé des créatures pour faire du recette. Mais pour que ce recette, il soit parfait, il faut du dine. Dans le sens, il faut que tu acquires les choses par toi-même. À partir du moment où tu rentres dans cette étape-là, j'acquiers les choses par moi-même, c'est-à-dire qu'on ne les donne pas de l'extérieur, hein, c'est-à-dire que j'existe de manière individuelle. Je suis un individu à part entière, et il n'y a que ce que je vais acquérir par moi-même qui compte, dans le Yesod Advarim. Donc ça veut dire que ça, c'est l'Etzera et c'est le Dine à la fois, dans le sens que c'est le Dine qui a provoqué, c'est le fait que le Chesed doit être parfait qui a provoqué ça, et ça, c'est le Shoresh de l'Etzera qui dit que j'existe que par moi-même. Si tu n'existes que par moi-même, tu es auto-centré. Et tout ce qui vient de l'extérieur, je ne le prends pas. Moi, je m'accapare le monde et moi, je ne donne rien aux autres. Parce que si je donne aux autres, bah, ils n'ont qu'à le prendre par eux-mêmes. Chacun est indépendant, chacun est individuel et chacun est individuel. On n'a rien à se donner. Moi, je prends ce que je peux prendre et c'est terminé. Et donc, ça veut dire quoi en vérité? Quand Rav Shechet, il est grand, il est âgé maintenant, Rav Shechet, il écoute la Torah, c'est Gadol Hador. Il dit, pourquoi j'ai étudié? Pourquoi j'ai étudié? La Gemara dit, mais pourquoi tu t'es étudié pour toi? Pourquoi? C'est le monde entier qui dépend de la Torah. Maintenant, la Torah, à la base, je l'ai fait. C'est-à-dire qu'en vérité, ce qui nous enseigne Rav Shechet ici, c'est de dire qu'en vérité, quelqu'un, il fait tout pour lui. La volonté première de faire les choses, c'est pour moi, c'est le jeu, c'est moi. Non, la question, c'est toi, c'est qui? Toi, c'est toi, ou toi, c'est toi et ta femme, et toi et, ta, et, toi et la communauté, et toi et les juifs, toi et le monde entier, toi et toute la création. Le jeu de quelqu'un, il est toujours au centre de tout. C'est-à-dire, quelqu'un, il ne fera jamais quelque chose d'autrui. Mais mon jeu à moi, je peux le voir comme quelque chose de plus large que moi, je peux m'étendre aux autres. C'est ça ce qu'elle me dit la Gemara. À la base, je le fais que pour moi. Mais la Torah, ça maintient le monde. Oui, c'est vrai. Mais à la base, je le fais que pour moi. C'est-à-dire qu'à la base, tout départ du jeu, du moi, et puis ensuite, tu peux rester centré en toi-même, rester que avec ton Yetzer Hara et jamais arriver à te voir comme, pas comme un individu propre, mais comme une partie d'un tout. Ou alors tu peux Tu peux t'étendre et te dire, mais moi, en vérité, je suis qui? Moi, c'est moi et ma famille, moi et ma femme, moi et mes enfants, moi et ma communauté. Donc, quand moi, je fais quelque chose, quand moi, je veux quelque chose pour moi et pour les autres aussi. C'est moi aussi, ces choses. C'est-à-dire que ça sera toujours moi. Mais la question, c'est qui, toi? Toi, c'est qui? C'est toi et tous les autres ou toi tout seul? C'est ça, c'est ce qu'elle nous enseigne, cette mémoire. Ça commence toujours par le jeu. Le jeu primordial d'un bébé, c'est je et que lui. Ensuite, la question, c'est quand il va arriver à un certain âge, le Tseratop, il va arriver. Le Tseratop, c'est lui qui va diriger les Tseratop. C'est comme si le Chesed, il va dire, mais ne reste pas que toi avec toi-même. Dirige-toi, étends-toi vers les autres. Ça restera toujours que toi, en vérité. Quand tu feras toute chose, ça sera toujours, même Abraham Avinu, lui, il était toujours Chesed. Abraham Avinu, c'est. Mais quand il faisait quelque chose pour lui, quand il dit je veux faire quelque chose, son jeu à lui, c'était toute la création entière. Il prenait en compte le monde entier. C'est-à-dire qu'il se sentait pas comme un, il se sentait comme un individu, mais il englobait le monde entier en lui. Et donc, à chaque fois qu'il voulait faire quelque chose, ben, c'était le monde entier qui faisait quelque chose. Pour lui, dans son ressenti profond. Ça, c'est un niveau qui est inatteignable, inimaginable pour nous. Et on peut comprendre ça sur un petit cercle, sur un cercle familial. Quand il veut faire quelque chose, ben, c'est vrai qu'il veut faire quelque chose, il veut dire, mais finalement, je fais quelque chose, ça veut dire quoi? Ma famille, on fait quelque chose, j'emmène tout le monde avec moi pour ça. Je suis pas tout seul. C'est-à-dire, le Yetzirata, il va diriger Yetzirata de lui dire, je ne te vois pas comme une partie, je ne te vois pas comme un tout à part entière, mais comme une partie d'un tout. Et étends-toi, reste pas contracté sur toi-même. D'accord? C'est comme le lolishma. La Gemara dit mitor, c'est lolishma, balishma. D'accord? Mitor, c'est lolishma, balishma. Du lolishma, il ne peut pas venir le lolishma. Le lolishma, c'est l'inverse du lolishma. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en réalité, comme il dit le Rambam, un enfant qui commence, je ne sais pas, il a étudié lishma. Mais pourquoi je vais étudier? Bah, parce qu'il faut créer, pour maintenir le monde. Tout le monde entier dépend. Nous aussi, ça nous intéresse en fait. Mais bon, quand on fait des enfants, à ce niveau-là. C'est-à-dire, et après, tu dis, bon, je te donne un bonbon. Ah, d'accord. Voilà, regarde, tu vas voir, c'est hyper sympa d'étudier, c'est agréable. Ah oui, ça m'intéresse. Mais si tu me dis, étudie parce que ça va faire plaisir à peu près, ou étudie parce que ça va maintenir le monde, ça parle pas, non. Quelqu'un qui grandit, on m'a dit, à partir d'un certain âge, il peut essayer, il peut commencer à comprendre, c'est quoi le lichma. Alors que moi-même, je suis plus que tourné vers moi-même. Moi-même, je me suis étendu. Maintenant, je comprends que chaque chose que je vais faire, ça dépasse mon intérêt propre personnel, mais ça touche à d'autres choses qui sont beaucoup plus larges que ça. Et c'est ça que Rav Cheshet disait. Rav Cheshet, il disait, je suis joyeux, il était joyeux, il parle de Simcha, il dit Chada Inafshe, c'est une grande joie, hein. C'est extraordinaire. Il a tremblé de joie. C'est une joie extraordinaire. Parce que ça lui procurait une joie extraordinaire, parce que ce qu'il faisait, il disait, ça me procure une joie extraordinaire ce que je fais pour moi-même. C'est-à-dire que tout part de la joie comme on fait les choses pour moi-même. Mais après, pour Rav Cheshet, quand il disait, je fais les choses pour moi-même, j'ai étudié pour toi, c'est-à-dire j'ai étudié pour toi, et mon moi à moi, c'est de maintenir le monde, c'est englober de manière très large. Pourquoi? Parce que plus en vérité on va s'étendre, et plus on va être joyeux dans ce qu'on fait. C'est ça qu'on va essayer de comprendre. Donc, pour terminer sur ces choses-là, en vérité, ça, c'est un enseignement que tout le monde connaît, il est marqué, l'Ayoua de Marimalé, Levavecha. C'est derrière dans le commande. C'est quoi Levavecha de Vav, de Vet? Avec deux Yetzirah. Comment tu peux servir Hachem avec Yetzirah? C'est très simple. En fait, Yetzirah, c'est le moteur, Yetzirah, c'est le volant. Le Yetzirah, c'est le moteur de tout. Le Yetzirah, c'est lui qui doit l'orienter. L'orienter de la bonne direction. Il ne doit pas le laisser rester enfermé en lui-même. C'est comme ça que tu peux servir Hachem. Parce que comment c'est Yetzirah, il m'emmène vers le bas, Yetzirah, il me bien. Comment je fais pour servir Hachem avec Yetzirah? C'est un non-sens, cet enseignement. Non. Le Yetzirah, ce n'est pas de m'emmener vers le bas. Le Yetzirah, c'est m'emmener vers moi-même. Et le Tseratov, il dit oui, d'accord, fais tout pour toi-même, ça c'est normal, de toute façon, t'as pas le choix. Mais comprends que toi-même, ça s'arrête pas là. C'est ça que le Tseratov dit dans ce même. Si on peut résumer ça en une phrase, qui est très, qui pourrait rentrer dans les livres de pédagogie moderne, c'est, c'est, au lieu de dire comme si on dirait à un enfant, on disait, donne un moment à ton copain. Non, je veux pas. Je veux faire ça pour moi. Fais-le pour toi. Alors donc donne-lui. Fais-le pour toi, donc donne-lui. C'est-à-dire que quand tu lui donnes, tu es en train de faire quelque chose pour toi. C'est que comme ça que ça peut marcher. Quand tu donnes aux autres, c'est à toi que tu donnes. Si quand tu donnes aux autres, tu as l'impression que tu donnes aux autres et que toi, tu es sorti de l'histoire, ben en fait, ça veut dire que quelqu'un, il n'a pas de goût à ça, il ne donne pas de plaisir. La seule façon d'avoir du plaisir, de faire du chesed, c'est que quand je donne aux autres, en fait, je me donne à moi-même. Mon jeu à moi, il est beaucoup plus large que ça. D'accord? Comme on a dit, la gadlout, c'est de s'étendre chez les autres, c'est d'exister aussi chez les autres. Maintenant, pourquoi Essav? En vérité, c'est le Bechor. C'est pour ça qu'Essav, c'est le Bechor. Pourquoi c'est le premier qui naît de Yitzhak? Parce que avant tout, d'abord, c'est Yitzhak. D'abord, le Ra, il doit arriver. Le Ra, dans le sens, l'existence en tant qu'individu, j'existe, le Dîn, j'existe tout seul, il n'y a que moi ici. Et moi, je dois évoluer pour devenir quelqu'un. Et ensuite, il y a Yaakov qui vient. C'est-à-dire qu'Essav, il vient forcément envoyer Yaakov. Parce qu'il y a Yitzhak, il vient forcément envoyer Yitzhak. Il dit que ça, c'est pas le Yetzer, mais c'est le Ra. Et ça, après, il symbolise que le Yetzer, plus tard dans sa vie, il va accomplir tout ce que le Yetzer, il fait. Maintenant, Rav Sheshet, on a dit encore une fois, il parlait de Simcha, il parlait de joie. Et en réalité, la Simcha, c'est le même Yesod. La joie, je m'approprie. Quand est-ce que quelqu'un, il est content? Quand est-ce que quelqu'un est joyeux? Quand il sent qu'il s'est élargi, il a rajouté quelque chose en lui. Ça lui propose une expansion de la vie, ça rajoute de la joie. J'ai rajouté une brique. Quelqu'un, il voit qu'on construit quelque chose, ça rajoute. À chaque fois que quelque chose de nouveau arrive, ça rajoute de la joie. Ça veut dire que la joie, elle est liée toujours à l'expansion dans la Torah. Elle n'est pas liée à la contraction. Quand on perd quelque chose, on n'est pas joyeux. Quand on gagne quelque chose, on est joyeux. Toujours quand on rajoute quelque chose dans ta vie, ça peut être on rajoute quelque chose d'extérieur, ça veut être à l'intérieur de soi-même, on a rajouté une brique. C'est étendu. C'est pour ça que Rav Sheshet, il était tellement joyeux. Parce qu'il a dit, je me réjouis que de tout ce que j'ai, c'est pour moi. Ça veut dire, je me réjouis que mon moi à moi, il comprend le monde entier. Mais sans oublier que je l'ai fait à la base que pour moi. Alors ça, c'est Yesod, il est intéressant parce que il y a un espace où. Et à Yachel, t'as fait le blimela, c'est un passou dans Iyov. Dans la Torah, il y a un truc qui s'appelle Tafel. Tafel avec un tête. Ça veut dire un truc qui n'a pas de goût. Quelque chose qui n'a pas de sel, ça s'appelle Tafel, quelque chose de fade. Comme c'est marqué aussi Rabbi Eliezer, Omer Kolamed, Lamed et Pito Torah, celui qui enseigne la Torah à sa fille, mais Lameda Tiflout, il enseigne de la Tiflout. Ça veut dire quoi, il enseigne de la Tiflout? Non, quoi, il enseigne de la tifoute, quoi, la Torah, c'est de la tifoute. Non, c'est comme s'il enseigne de la tifoute. C'est-à-dire quoi, de la tifoute? C'est pas qu'il enseigne quelque chose qui est pas pour, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de goût. Tu lui donnes un truc qui est fade pour elle, qui n'a pas d'intérêt. Tu enseignes quelque chose qui n'a pas d'intérêt. C'est pas ça qu'il faut enseigner. La femme, elle n'est pas dans le livre de Torah. Quand tu enseignes la Torah à ta fille, la Torah chez Baalpé, on parle pas de la Torah chez Birtav, Rachidi, tu lui enseignes de la tifoute. Tu lui donnes à manger quelque chose qui n'a pas de goût. Quelque chose qui n'a pas de sel. C'est pas ça qu'il lui faut. C'est comme si tu lui donnes à manger à quelqu'un qui n'est pas sa nourriture qu'il aime. Alors, il n'a pas de goût, ça ne l'intéresse pas. Pourquoi tu lui donnes ça? Tu lui donnes pas la bonne chose, en fait. C'est ça que ça t'a fait. T'a fait, c'est quelque chose n'a pas de goût. Maintenant, on va arriver à Essav. Essav, qu'est-ce qu'il dit à ton père? Il dit, comment on prélève le sel? Je sais, comment il l'a trompé à son père? Il lui a dit, comment on prélève le sel? Parce que, oui, il a trompé son père, à pire, des exemples. Quand il parle du sel, c'est une question bizarre. En vérité, Essav, c'est le sel. C'est lui, le sel. Il dit quoi? Tout vous prélevez sauf moi-même. C'est-à-dire, tout vous considérez, moi, je suis la base de tout. Moi, je suis le sel des choses. Le goût, c'est quoi? Quand quelqu'un, il goûte quelque chose et il aime. Alors, regardez, il y a de plusieurs possibilités. Quelqu'un, il a très faim, mais très, très faim, il est dans le désert. Vous lui donnez un quignon de pain rassis. Il a un plaisir extra. Quelqu'un, il a très soif. Vous lui donnez de l'eau, il n'a pas de goût. Eh ben, il a un grand plaisir à la mort. Quelqu'un, il n'a pas soif. Vous êtes de l'eau, il n'a pas de plaisir à la mort, il ne fait pas de bracha. Il n'a pas de bracha, il n'est pas né, il profite pas de la chose. Et quelqu'un qui n'a pas faim, il a mangé tellement qu'il n'en peut plus. Pour que tu lui donnes un truc qu'il va vouloir manger, il va kiffer, il faut vraiment que ce soit très, très, très bon. Gâteau, chocolat, un truc, etc. Moins tu as faim, et plus tu as de plaisir à manger. Plus tu as faim, et moins tu as de goût dans les choses. Tu n'as plus de goût, ok, c'est bon, mais ça y est, j'en peux plus, j'ai pas envie, ça ne m'intéresse pas. Ça veut dire qu'en fait, quand on a du plaisir à faire une chose, c'est quand cette chose, elle me donne une sensation de vie. J'ai faim, il me manque quelque chose. Maintenant, je me sens affaibli, je sens qu'il me manque quelque chose dans ma vie. Quand tu me donnes à manger, ah, j'ai un plaisir à le manger parce que ça me donne une sensation de me remettre dans la vie. C'est-à-dire, j'ai une sensation de revivre. C'est les sensations. En fait, le fond du goût, c'est la sensation de vie. La sensation que maintenant, ma vie, elle s'est un peu réveillée. J'avais faim, maintenant je mange, ah, je me sens mieux. D'accord? C'est pas le goût des choses qui donne le plaisir. Parce que si j'ai pas soif et que je bois de l'eau, ou si j'ai pas faim et que je mange quelque chose même qui est bon, ça, j'aime pas ça. C'est pas de goût dans la chose. Et ça, lui, il vient et il dit, moi, je suis le goût des choses. Parce que le Yetzer Hara, c'est ça qui donne le goût des choses. Le fait de faire la chose, ça qui donne le goût. Parce que le goût, c'est que quand ma vie à moi, elle prend, je lui rajoute quelque chose, je l'amplifie, je lui donne une intensité. Quelqu'un, des gens, ils cherchent des sensations fortes, extraordinaires. Pourquoi tellement ils ont plaisir à le faire? Parce que ça va. Parce que quand ils sont face au danger, ils ont l'impression que leur vie, elle s'allume, elle prend une force qu'ils n'avaient pas avant. La sensation du danger, c'est ça, les gens, ils sautent en parachute. Moi, tellement ça fait un plaisir. Parce que comme je frôle la mort, alors je sens la vie beaucoup plus fort en moi. En moi, je sens que je vis beaucoup plus. Et plus on sent qu'on vit, et plus on a du plaisir à vivre. Et plus on se sent bien dans la vie. En fait, le goût des choses, c'est la sensation que je vis plus. Plus je vis, plus je me sens bien. Et ça, c'est quoi cette sensation de vie, ça? J'existe un peu plus. Ça, c'est le Etc. C'est on a dit, c'est le Etc. Pas dans son sens, mauvais petit ange rouge qui est sur la tête de quelqu'un avec une fourche et qui nous souffle des mauvaises pensées. Le Etc. dans le sens, j'existe. Je fais les choses pour moi. Je sens que je suis là et que je prends le monde, j'en profite et je le prends pour moi. Et donc, en vérité, Esav, lui, il te dit, moi, je suis le goût de tout. Ouais. Et ça, il dit, moi, je suis le goût, moi, je suis le Yesod Advarim. Comment on prélève le sel? Pourquoi on ne prélève pas le sel? Il dit à son père. C'est-à-dire, pourquoi tout est prélevé et le sel, qui est l'exhausteur de goût par excellence, c'est-à-dire que le tafel bimela, quelque chose, il n'a pas de goût quand il n'a pas de sel, il est fade, et ben moi, je donne le sens à toutes les choses. Moi, il sert à moi le rat, moi, le chorèche du rat, je donne le goût à tout, moi. Alors, pourquoi vous ne prélevez pas? Pourquoi vous ne considérez pas? Pourquoi je ne pas considérer? Et le sel aussi, c'est un conservateur. Mais ça, on va pas. En vérité, le Tzera Ramoshi dit c'est aussi un conservateur. Ça donne l'élan de faire les choses et ça conserve les choses. Le Tzera, en vérité, c'est lui qui me dit la Petah Hatan, c'est le type qui se met dans le coin et qui te regarde et qu'à peine tu détournes la tête, tu sautes dessus. Le Tzera, c'est l'ennemi. C'est-à-dire, le Tzera, il crée chez moi de la vigilance parce que je sais qu'il y a quelque chose ici qui peut me détourner de mon chemin parce que je vais rester centré sur moi-même constamment. Et finalement, je vais être attiré vers toutes les Tahavot, c'est que le profit auto-centré. Et deuxièmement, etc., il me donne envie de faire les choses, il me donne du goût dans la vie, il me donne le plaisir des choses. Donc en réalité, le etc., c'est l'yesod des mitzvot lota assez, des mitzvot assez. Le ishamer et le assez. Fais et ne fais pas. Fais, le etc., c'est l'yesod de tout. C'est pour ça que je dis que ce cours est révolutionnaire, parce qu'on entend rarement ça, que etc., c'est l'yesod de Kol HaDvarim. Et etc., c'est seulement celui qui guide l'etc. Mais à la base, tout n'existe que par etc., il n'y a que l'etc. qui est fondamental dans l'homme. Et donc, maintenant, pour revenir à Essa, donc Essa, en réalité, quand il parle à son père, qu'est-ce qu'il entend chez Essa? Il entend chez Essa le début de tout, ça veut dire le shoresh de l'envie de faire les choses, le shoresh d'arriver à exister et à avoir envie de la motivation vers les choses. Et ça lui fait entendre Rabbi Akiva, le Harizal, il dit, comment t'arrives de qu'on a développé maintenant, c'est-à-dire le fait d'exister, le fait de faire les choses et d'en prendre, de prendre du goût à ça, de prendre du plaisir pour ça, et tu arrives au Limud Torah. Alors c'est simple, parce qu'en vérité, il n'y a pas de hana'a comme le Limud Torah, il n'y a pas de plaisir comme le Limud Torah. Le Limud Torah, quelqu'un qui a étudié un jour dans sa vie, qui s'est fatigué, qui s'est cassé la tête, et qui a compris quelque chose, il n'y a pas d'expansion de l'être au plus grand que cela, il n'y a pas d'élargissement. Quand on étudie la Torah et qu'on sent qu'on évolue, notre perception, elle change, notre façon de voir les choses, elle change. On évolue beaucoup plus que quand on goûte. Quand on goûte quelque chose, on a faim, on boit, on mange, on a soif, on boit, on a du plaisir, après ça s'arrête là. Et quelqu'un qui étudie la Torah, qui fait du Chesed, etc., c'est que cette notion d'étude de la Torah particulièrement, c'est comme il dit le Razonich, il dit que celui qui a goûté au plaisir de la Torah, il a, on n'a pas peut-être des offres à ce moment-là, mais un petit peu, bon, plus rien n'a de goût pour lui dans ce monde, ni la nourriture, ni les femmes, rien du tout. C'est parce qu'en réalité, le Limud Torah, il amène à la personne un tel élargissement de lui-même, un tel élargissement de sa perception des choses, de la perception différente dans les profondeurs de ce que ce monde est. Quand il étudie la Torah, Bayoun et Béamal, pas juste, il le. On ne parle pas de dire du Kumash, on parle d'étudier la Torah. C'est la Torah chez Béalpé, qui est la compréhension des choses, et non pas les énoncés, les faits. Alors, il a un plaisir extraordinaire. En réalité, le Yesod du Limud Torah aussi, comme dit Rav Sheshet, j'ai étudié pour moi, j'ai eu un plaisir extraordinaire et je l'ai fait pour moi. Je l'ai fait pour moi. Et donc, en réalité, quand il entend Essa, que lui, il dit, moi, je suis le goût des choses, moi, je donne le plaisir aux choses. Alors, il entend ici, mais ça, c'est ce qui va motiver les gens à étudier toute leur vie. C'est ça qui va amener Rabbi Akiva. C'est Essa qui est porté en lui, Rabbi Akiva. Parce que Rabbi Akiva, toute la Torah chez Béalpé, elle passe en lui. C'est celui qui. Pourquoi la Torah chez Béalpé, elle passe par Rabbi Akiva? Parce que c'est lui qui a le plus travaillé, c'est lui qui a le plus compris, c'est lui qui a le plus clarifier les choses. Ça passe par lui, c'est lui qui a une sroute. Ça passe par lui. C'est-à-dire que le Hamal de Rabbi Akiva, il n'est pas comparable au Hamal de sa génération. C'est-à-dire que le plaisir qu'il en a retiré, l'attraction qu'il avait vers la Torah, Rabbi Akiva, il était fou. Il était au-dessus de tout ce qui existait. Donc en réalité, ça, c'est Essav qui le porte en lui. Essav, on dit Essav dans le sens, c'est ce fondamental-là qui dit que je suis attiré et que plus je suis attiré, plus j'ai du plaisir à faire les choses et plus je vais les faire. C'est de ça que la Torah orale. La Torah chez BLP, on ne peut l'étudier que si on a le plaisir à On ne peut être attiré par la Torah que si on goûte, que si on est content, on étudie. Ah, c'est intéressant, c'est bien, j'aime ça. La Torah chez Birkhtav, c'est beaucoup moins, tu peux lire, tu fais une mitzvah quand tu lis, tu n'as pas besoin de comprendre. La Torah chez BLP, c'est que la compréhension. Cet effort-là que ça demande, et cette découverte que tu vas trouver, ça passe que par le plaisir. Tu ne peux pas dire à un enfant qui étudie s'il n'a pas de plaisir à faire. Ça ne marchera jamais. C'est impossible. Ça n'a aucun sens. Et ça, c'est quoi? C'est les tzara. C'est qu'il faut stimuler les tzara. Stimuler le plaisir. Je regarde comment c'est acquis. Regarde comment tu vas. Pour toi, fais-le pour toi. Tu vas prendre un plaisir extraordinaire à le faire. Fais-le que pour toi. Un jour, il grandira peut-être. Peut-être, le Rambam dit un jour, on arrivera peut-être au Lishma, dans le sens qu'on va comprendre que finalement, quand j'étudie pour moi, en réalité, moi, c'est quand je le fais aussi, je fais exister des mondes. Je réalise un but, toute la création. Et ça prend du temps pour y arriver. C'est-à-dire qu'il faut que je me sois, faut que ma perception elle, soit tellement élargie que j'ai compris que ça me dépasse, ces choses-là. Qu'en réalité, moi, je suis beaucoup plus grand que ce que je croyais. Je ne suis pas juste mon petit plaisir à moi, mais je suis quelque chose de très, très grand. Ça prend du temps pour y arriver. Restez toujours sur cette idée. Regardez, c'est un Midrash Hanella. Vous avez dans le Zohar, vous avez le Zohar, et à côté, vous avez Midrash Hanella. C'est un texte de Kabbalah qui est apparenté au Zohar. Un dialogue entre deux Amoraïm qui se rencontrent sur le chemin, et j'ai ce que j'ai souligné. Donc il parle de Yetzera. Est-ce que Yetzera, il va être supprimé du monde dans le monde d'après? Le Mashiach qui va arriver. Amarle Chayecha, il dit sur ta vie. Achi, Yetzera, Leolam, on a besoin de Yetzera dans ce monde, qui est Mitralam comme de la pluie dans ce monde. C'est Ilma Yetzera, parce que sans Yetzera, Vata Dishmata, la vie n'aura pas de kiff des tout. Il n'aura pas le plaisir de tuer. Tout le monde connaît ça. Le Yetzera, des Arayot, hein, on parlait de Yetzera, des Arayot, d'après, ça va expliquer pourquoi. Yetzera de Arayot, c'est lui qui amène le plaisir d'étudier. Deshmata lo liyaveh, il n'y a pas. Aval, il va être transformé. Il va pas être dirigé vers la Avera, il va être dirigé que pour ce qu'il a besoin. C'est-à-dire que quelqu'un ne sera attiré que vers sa femme. Mais il ne peut pas enlever le plaisir. Il ne peut pas enlever le plaisir que je goûte quand quelqu'un est attiré par son Yetzera et il prend du plaisir à être avec sa femme. Parce que si tu enlèves ce plaisir-là, tu enlèves le plaisir de l'étude. Comme ça, il lui dit. Il lui dit, ça peut pas, pour ça, mais tu ne peux pas l'enlever. Pourquoi tu ne peux pas l'enlever? Pourquoi tu perds le plaisir d'étudier quand tu enlèves Yetzera? Parce qu'en vérité, si tu enlèves le plaisir du Yetzirah, de goûter aux choses, comme moi je profite du monde, je n'ai pas de goût à ça, alors tu enlèves la motivation de faire les choses. Et si tu enlèves la motivation d'aller vers les choses, d'attirer vers les choses, donc moi, mon jeu à moi, je n'ai plus d'intérêt à faire les choses pour moi, puisque je n'en retire pas de plaisir. Et donc, je ne vais plus pouvoir étudier. C'est-à-dire que j'ai plus d'intérêt à me casser la tête à étudier. Ça ne va pas être intéressant. Les gens, ils vont plus étudier. Si tu enlèves le Yetzirah, tu enlèves la joie de l'étude. Il va étudier, mais il n'a pas la joie de l'étudier. La joie dans l'étude, c'est important. Comme il dit le Ivétal, le Icar, le Torah, c'est le Roneg, la Simcha qu'on a à ce moment-là. C'est ça que le Zohar nous dit. C'est ça que ça veut dire. Le Yetzirah, c'est le goût de faire chaque chose, le plaisir qu'on en retire. Maintenant, et dans la Torah chez BLP, on peut trouver tous les goûts qu'il y a dans ce monde. La Forbava avec tout là-bas, ça veut dire, finalement, ce que tu peux trouver comme plaisir ailleurs, tous les plaisirs que tu peux trouver ailleurs, ben, tu peux les trouver dans l'étude de la Torah. C'est que comme ça qu'on peut motiver quelqu'un. Sache que si tu t'investis vraiment dans l'étude de la Torah, ben, tout ce que tu as trouvé comme plaisir ailleurs, qui sont des plaisirs, ben, tu trouveras beaucoup plus là-dedans. Et tous les goûts, la Torah, c'est comme la manne. Chacun, il mange, il trouve son goût dans la Torah. C'est-à-dire que finalement, tu peux trouver là-bas, tu peux trouver ta façon d'étudier ton prélègue dans la Torah, ton goût à toi, et il va surpasser tous les autres goûts. Ça demande un investissement énorme, parce qu'à un moment, il faut du travail. Si il ne travaille pas, il ne peut pas y arriver. Donc, pour terminer ce qu'on a dit, pour conclure, Yitzhak, il savait très bien que Esav, c'est le rat, c'est la partie fondamentale de l'être. C'est ce que l'être, il commence à faire. C'est le début, c'est l'aîné. Donc, Esav, il sait très bien qu'il est comme ça. D'accord? C'est pour ça qu'il est en premier chez de Yitzhak. Seulement, le problème, c'est que Yitzhak, lui, beaucoup plus que Esav. Parce que Yitzhak, en vérité, j'ai dit au début, Yitzhak, il est din. Alors, si Yitzhak, il est din, pourquoi Sdom et Yitzhak ne sont pas d'accord? Parce que Yitzhak, lui, c'est le din à l'extrême. Yitzhak, lui, tellement, C'est toi qui l'as fait cette réflexion-là. Finalement, il n'y a que moi qui existe, le reste n'existe pas. Mais qui t'a dit que toi, tu as le droit d'exister, Birla? Il sera qu'il en est arrivé à une telle contraction de lui-même. Avant même, il s'est étendu dans le monde entier. C'est élargi dans le monde entier. Il sera qu'il s'est tellement contracté, il a dit, mais moi, je n'existe pas. En fait, comment j'existe? J'existe que par la volonté d'Hachem. Il s'est annulé, il s'est rendu la cendre, il s'est rendu un corban. Ça veut dire qu'il a complètement annulé son jeu, il s'est tellement contracté qu'il s'est fait disparaître de lui-même. Il sera que dans la Torah, vous voyez, il est toujours passif. Il sera qu'il ne fait jamais rien. C'est toujours Rivka qui fait tout, il sera qu'il ne fait rien. Il est assis, il attend qu'on le serve. Toute la paracha, donc toutes les parachutes, il sera qu'on ne voit jamais qu'il fait quasiment rien. La fois qu'il fait quasiment rien, c'est il sera que lui, il est dans l'annulation de lui-même. Il est en train de dire, moi, finalement, moi non plus, j'existe pas. Tellement le dîn, il est vrai, tellement on va restreindre les choses, que même moi, je vais me restreindre, même moi, j'ai pu exister. Et la seule façon d'exister, c'est que je m'annule à Kadosh Barouh. Il a voulu sacrifier. Il sera que c'est lui qui a voulu sacrifier. Il a dit, mais moi, je suis prêt à me sacrifier entièrement pour Hachem. Il lui a dit, moi, j'ai fait Brit Mila, t'as fait quoi, toi? Moi, à 13 ans, toi, t'as fait à 8 jours, t'as pas eu de douleur. T'as dit, mais moi, entier, Hachem, il me demande, je me sacrifie. Il sera qu'il voulait sacrifier. Il sera que c'est un corban. Ça veut dire, il sera qu'il est prêt à renoncer à son existence propre. Et elle a vécu à côté de la Kadosh Barouh. Donc, en fait, il sera que c'est le dîn qui dit pas, toi, t'as le droit à rien, et moi, j'ai le droit à tout. C'est même moi, j'ai le droit à rien. Et donc, comme j'ai le droit à rien, alors j'existe qu'à travers Akadosh Baruch Hu. Alors, on y met là. Alors, du coup, il peut donner tout aux autres. Mais ça veut dire, en fait, Abraham Avinu, il est passé par l'expansion. Il sera qu'il est passé par la contraction. Mais les deux, ils arrivent au même résultat. Les deux, ils arrivent à des tzadikim. Ils sont des tzadikim entiers. Alors que Esav, c'est la première moitié de Yitzhak. C'est Yitzhara à l'état primaire. Ça veut dire, j'existe, tout est que pour moi. D'ailleurs, en valeur numérique, il dira Moshe Tsaïd. Tsaïd, c'est 104. Et Yitzhak, c'est 200, 208. Saïd, Béfiv, Saïd, c'est la moitié. C'est-à-dire qu'Essav, il avait la moitié de Yitzhak. La moitié, c'est-à-dire la partie Yetzerara à l'état brut. Et après, il avait Yaakov qui était la partie Tor. En réalité, c'était Yaakov et lui, ils étaient censés s'équilibrer. Yaakov était censé amener Essav vers là où il devait aller. Seulement pendant 15 ans ou 13 ans, ils étaient ensemble et après, ils se sont séparés. Ça, il a claqué. Mais à la base, ils étaient censés s'équilibrer les deux. D'accord. Et pour terminer, je veux dire ce qu'il y a marqué dans le schéma, vers peut-être Hachem Lokecha, on dit, ça veut dire que l'Etzeratov, il est censé guider l'Etzerara. Il est censé lui montrer vers là où il faut aller. Et c'est ça, la suite, c'est quoi? Et la seule façon d'y arriver, c'est Vayu Advarim. Donc ces paroles-là, les paroles de la Torah, sont sur ces deux Etzerara. C'est-à-dire que tu prennes du plaisir à étudier et qu'après, tu arrives à le. Il n'y a pas de possibilité pour quelqu'un de s'investir dans le Limud Torah si ce n'est pas Alevavecha, si ce n'est pas sur son Etzerara et sur son Etzeratov. Si ce n'est pas un goût qu'il a dans l'étude pour lui et qu'il en profite, ce n'est pas possible autrement. Pas à